Bonjour, au micro Idrissa Seroudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, des manifestants ont incendié hier soir un commissariat de police à Minneapolis dans le Minnesota lors de la troisième nuit de protestations violentes contre la mort de George Floyd, un noir de 56 ans, décédé suite à une interpellation musclée de la police lundi soir. Le bâtiment avait été évacué par la police. La mort de Floyd a suscité des manifestations de colère non seulement à Minneapolis, mais aussi ailleurs dans le pays, alors que les autorités locales exhortaient les protestataires à éviter la violence. Plus tôt dans la journée hier, le gouverneur du Minnesota avait fait appel à la garde nationale pour aider à arrêter la violence. George Floyd a été plaqué au sol par un policier blanc qui a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. « Je ne peux plus respirer », l'entend-on dire sur un enregistrement de la scène devenue virale. Le président Donald Trump a été indigné quand il a vu la vidéo de ce drame odieux, tragique, a fait savoir sa porte-parole. Les quatre agents impliqués ont été licenciés et les autorités locales et fédérales enquêtent sur le drame. Mais aucune inculpation n'a encore eu lieu, ce qui alimente la colère et les frustrations. Concernant maintenant la pandémie de COVID-19, plus de 1000 personnes ont encore succombé au coronavirus aux États-Unis et au Brésil en 24 heures sur un continent américain où la pandémie progresse toujours rapidement, contrairement à l'Europe qui poursuit son lent retour à la normale. La barre symbolique des 100 000 morts a été franchie cette semaine aux États-Unis où l'on déplore plus de 1,7 million de cas. Au Burkina Faso, l'état-major des armées a annoncé que 10 terroristes ont été tués, un gendarme blessé, des armes et des motos récupérées jeudi lors d'une offensive contre une base djihadiste à Ouro, province du Souro. Ce bilan n'était pas vérifiable de sources indépendantes. Les forces armées burkinabées, qui ont perdu des hommes dans plusieurs attaques récemment, mènent de plus en plus d'opérations antiterroristes. En République démocratique du Congo, deux casques bleus de la MONUSCO ont été blessés jeudi en repoussant une attaque de rebelles contre une de leurs bases dans l'est du pays. Selon la mission onusienne, l'attaque a visé une base temporaire à Mikenge dans la province du Sud Kivu. Au moins 3 personnes ont été également blessées dans l'attaque d'un camp de déplacés à Mikenge, selon la radio onusienne Okapi. L'armée congolaise, elle, parle de 7 blessés et d'un rebelle neutralisé. Ulcéré par l'attitude de Twitter, qui a épinglé mardi deux de ses messages en ajoutant pour la première fois la mention « vérifier les faits », le président Donald Trump a signé hier un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux et la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leur contenu. « Nous sommes ici pour défendre la liberté d'expression face à un des pires dangers qui soit », a déclaré le président américain en parlant de ce qu'il a appelé le monopole des groupes technologiques. Le décret devrait être le point de départ d'une longue bataille en justice. Par ailleurs, le président Trump donnera ce vendredi une conférence de presse consacrée à la Chine, a annoncé hier M. Trump qui, selon son secrétaire d'État Mike Pompeo, devrait sévir contre l'espionnage par les étudiants chinois. Cette déclaration intervient dans un climat explosif. M. Trump a haussé le ton ces dernières semaines en accusant la Chine d'être responsable de la propagation du coronavirus à travers la planète et a promis des représailles. De son côté, M. Pompeo avait affirmé mercredi que Hong Kong ne jouissait plus de l'autonomie promise vis-à-vis de Pékin et donc ne pouvait continuer à bénéficier de privilèges commerciaux avec les États-Unis. Le même jour, le Congrès des États-Unis a adopté une proposition de loi pour sanctionner des responsables chinois accusés de l'internement de masse des musulmans ouïghours. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, au micro Idrissa Seroudia. La suite de nos informations. Le principal parti d'opposition au Burundi, le Conseil national pour la liberté d'Agathon Rwasa, a déposé hier devant la Cour constitutionnelle son recours contre les résultats de l'élection présidentielle du 20 mai.
Nous venons de déposer notre dossier de recours à la Cour constitutionnelle, a déclaré M. Agathon Rwasa à la sortie du tribunal, affirmant avoir produit des preuves qu'il y a eu fraude massive. M. Rwasa a plusieurs fois dit ne se faire guère d'illusions sur l'issue de la procédure. La Cour est la même que celle qui a validé en 2015 la réélection du président Pierre Nkurunziza. D'après la Commission électorale nationale et indépendante, le général Évariste Gahishimiye, candidat du CNDD-FDD au pouvoir, a obtenu 68,72% des voix et l'opposant Agathon Rwasa 24,19% des voix. La Cour constitutionnelle a 8 jours à compter du dépôt du recours pour se prononcer sur la validité du recours ou proclamer les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et communales du 20 mai. De son côté, le chef de la commission électorale, Pierre Claver Kazihizé, a déclaré hier qu'il était surpris par les conclusions de la conférence des évêques qui a fait état mercredi de nombreuses irrégularités. Selon lui, les observateurs nationaux de 38 associations de la société civile et groupes religieux n'ont pas fait les mêmes observations.
La justice rwandaise a condamné à la perpétuité un ancien maire qui avait été mis en accusation par la justice internationale pour son rôle présumé dans le génocide de 1994, avant d'être renvoyé devant les tribunaux du Rwanda. Nathalie Barge.
La haute cour siégeant à Nyanza a reconnu Ladislas Ntaganzwa, maire de Nyakizu, en 1994, coupable de crimes de génocide pour son rôle dans des massacres de Tutsi à Siaïnda et Gasasa. Il a été arrêté en 2015 dans l'est de la RDC, 19 ans après sa mise en accusation par le Tribunal pénal international pour le Rwanda. L'ONU l'a livré aux autorités rwandaises en 2016. Selon Kinshasa, il était l'un des chefs des rebelles hutus rwandais des FDLR, actifs sur le terrain congolais depuis 25 ans. Ntaganzwa est le troisième fugitif renvoyé à Kigali après un ancien pasteur et un ex-chef de milice également condamné à la perpétuité par la justice rwandaise. Les enquêteurs ont aussi arrêté ce mois-ci en France le financier présumé du génocide, Félicien Kabouga, après 25 ans de cavale. Un juge de la Haye a déclaré que ce dernier serait jugé par un tribunal à Arusha quand les restrictions dues au coronavirus seront assouplies.
La Cour pénale internationale a annoncé jeudi autoriser sous condition l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à quitter la Belgique où il était assigné à résidence depuis son acquittement en janvier 2019 d'accusation de crimes contre l'humanité. Nanit Talani.
Un porte-parole de la CPI a indiqué que tout pays dans lequel M. Gbagbo souhaitera se rendre doit notamment accepter au préalable de le recevoir sur son territoire. La Cour a toutefois rejeté la demande de liberté sans condition présentée par l'ex-chef d'État ivoirien. Tout en rejetant cette demande, les juges ont décidé de mettre fin à certaines conditions imposées à la mise en liberté de Messieurs Gbagbo et Blegoudé, notamment celle de ne pas se déplacer en dehors de l'État dans lequel ils résident et de remettre à la CPI toutes les pièces d'identité dont ils disposent. Les autres conditions, parmi lesquelles comparaître devant la Cour lorsque celle-ci l'ordonnera et informer la Cour et l'État qui les accueille de leur adresse, restent en vigueur. Monsieur Gbagbo et son coprévenu Charles Blegoudé, ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, avait été libéré sous condition dont l'obligation de résider dans un État membre de la CPI disposé à les accueillir en attendant le procès en appel. M. Gbagbo vit depuis à Bruxelles, tandis que M. Blegoudé est resté à la Haye.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, la production de brut en 2019 a augmenté de 12% pour atteindre plus de 36 000 barils par jour, du fait de la mise en production de nouveaux puits et de l'amélioration de la production sur un bloc. Selon le ministère ivoirien du pétrole, la part engrangée par l'État s'élève à 200 millions de dollars, soit une hausse de 1,45% par rapport à 2018. pressé par Washington d'accepter une enquête indépendante sur son président Akinwumi Adesina accusé de prévarication, la Banque africaine de développement a affirmé n'avoir pris pour l'heure aucune décision. La présidente du conseil d'administration de la BAD, Niale Kaba, a déclaré que le panel s'était réuni mardi pour examiner la plainte des lanceurs d'alerte contre Adesina. Mais en aucun cas, il n'a été demandé au président de démissionner. M. Adesina a clamé son innocence et a affirmé qu'il va continuer à travailler. Pour terminer, le nombre total de chômeurs indemnisés aux États-Unis a baissé pour la première fois depuis le début de la crise, tandis que 2,12 millions de personnes se sont de nouveau inscrites au chômage la semaine passée, selon le département du travail. Environ 21 millions de personnes ont touché une allocation chômage au cours de la semaine du 10 mai, contre 25 millions la semaine précédente. Plus de 41 millions d'Américains ont pointé au chômage ces deux derniers mois.
Le sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Direction la République démocratique du Congo pour commencer. Le général Gabriel Kumba, dit Tango Fort, a quitté la direction de l'AS Vita Club. L'officier de l'armée, grand passionné de football, arrivé à la tête de la coordination de vœux club en 2007, estime qu'il est temps de passer à autre chose. Qu'a-t-il apporté au club quinois? Nous avons joint le consultant de sport Valdo Yamba Yamba à Kinshasa.
Élu président des coordinations de l'AS Vita Club de Kinshasa en 2007, Gabriel Amissi a attendu 2020 pour rendre l'établier et ce, après 13 années de règne. De ces 13 années, l'on retiendra de l'homme 3 titres nationaux 2010, 2015, 2018, 2 finales des interclubs de la CAF sans le moindre titre remporté. L'année 2014 aura été celle de la consécration, mais le nul d'un but en finale, retour face à Sétif, n'aura pas été suffisant pour contrebalancer les 2 buts partout de Kinshasa. 4 années plus tard, soit en 2018, Vœux Club atteint la finale de la Coupe de la Confédération. La victoire 3 buts à 1 à Kinshasa lors de la finale retour n'aura pas fait les poids de la défaite 0-3 du match aller face aux Marocains des Rajas. Deux grosses déceptions qui n'auront pourtant pas poussé l'homme vers la sortie. Outre l'acquisition d'un centre sportif pour Vita Club, les règnes du désormais ex-président des Banavea a également été caractérisé par une stabilité de la présence du club sur la scène continentale et ce depuis 2009. Mais sa gestion n'aura pas été sans reproche, notamment en termes des transferts du joueur. C'est depuis près de 3 ans que sa démission a été réclamée par une frange des supporters. Mai 2020, Gabriel Amissi décide, contre toute attente, de se retirer de la gestion de son club de cœur, sans en évoquer les moindres raisons.
Valdo Yamba Yamba, consultant de sport, joint à Kinshasa. Au Togo, la Fédération de football a décidé de l'arrêt définitif des championnats nationaux de première et deuxième division. 2019-2020, il restait encore 6 journées à disputer pour finir la saison. Ainsi, les résultats obtenus à la 20e journée du championnat de première division sont entérinés. L'association sportive de la COSA, ASCO, leader avant la suspension, est déclarée championne. Son 5e titre national et représentera le pays en Ligue des champions CAF. Son dauphin Unisport jouera en Coupe de la Confédération. Les leaders des deux zones de la 2e division sont promus en première division. Et donc, la saison 2020-2021 se disputera avec 16 clubs dans l'élite. Aucun club ne sera relégué. En Angleterre, Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita, Ismaël Assar et autres Africains évoluant en Premier League vont reprendre la compétition le 17 juin, plus de 3 mois après la suspension du championnat à cause du nouveau coronavirus. 2 matchs en retard, dont un opposant Manchester City à Arsenal, seront disputés le mercredi 17 pour mettre à jour le calendrier et les 10 rencontres de la 30e journée seront ensuite reparties entre le vendredi 19 et le dimanche 21. La finale de la Coupe d'Angleterre se déroulera le 9 août.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Twitter a signalé le message du président américain Donald Trump en ajoutant la mention « vérifier les faits ». Une décision prise après des tweets de M. Trump affirmant que le vote par correspondance était frauduleux, car sujet aux manipulations. Le vote à distance est une question d'actualité aux États-Unis, où la pandémie de coronavirus fait peser le doute sur l'organisation de la présidentielle du 3 novembre. Nathalie Barge a joint Comey Afetse, officier de cyberdéfense au Pentagone, qui a l'habitude de voter par correspondance dans le Maryland.
Oui, voter par correspondance, c'est-à-dire avoir le bulletin dans ta boîte postale et remplir ça et renvoyer, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps. Et moi, j'ai l'habitude de faire ça parce que souvent, les jours d'élection, si je ne suis pas là ou je ne suis pas libre, je voudrais toujours m'assurer que mon vote est compté. Donc, je demande à ce que le board des élections m'envoie le bulletin à la maison. Je remplis ça et puis je le renvoie. C'est aussi simple que ça. Mais avant de pouvoir obtenir le bulletin, tu dois déjà être enregistré comme votant et en présentant tes pièces d'identité, comme quoi tu es citoyen et que tu es autorisé à voter.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler notamment de problèmes de fraude par rapport à ce système?
Il y avait eu des allégations, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un est décédé et que la personne avait l'habitude de voter par mail, on a toujours envoyé le bulletin et que peut-être d'autres personnes vont remplir le bulletin à sa place. Mais c'était des allégations qui, à la fin, n'ont pas été vraiment confirmées qu'il y avait eu certains de ces cas de fraude par mail.
Alors cela étant, quasiment tous les États le font, notamment dans le cas de dérogation, comme vous l'avez précisé, hein, parfois on ne peut pas se déplacer pour diverses raisons pour aller voter. Est-ce que vous pensez que cela serait compliqué si c'était fait à la présidentielle du 3 novembre, par exemple, parce qu'on vote dans notre État en général?
Oui, nous votons dans nos États et pour la présidentielle, chaque État gère ses votants et puis les nombres d'inscrits et la liste des votants. Donc, c'est un système déjà un peu compliqué, mais ils ont essayé de simplifier ça. Je vous dis, par exemple, que nous avions toujours l'habitude de voter dans les présidentielles, par bulletin d'absence bien avant. Par exemple, les soldats qui sont à l'étranger, les gens ils travaillent pour le gouvernement américain, qui sont à l'étranger, ont cette possibilité toujours de remplir le bulletin et de l'envoyer dans leur état pour que ça soit compté. Donc c'est un système déjà en place. Sauf que pour ces élections de 2020, presque une grande moitié de l'électorat peut le faire à la maison, ce qui est vraiment une première fois. C'est de là où provient un peu des doutes, mais c'est un système qui est déjà testé avant et qui a fait ses preuves.
Comey Afetse, originaire du Togo, joint dans le Maryland, ici aux États-Unis.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Nigeria a enregistré plus de 8700 cas de coronavirus avec 254 décès. La propagation rapide du Covid-19 a mis à l'épreuve la faiblesse du système et ceux qui souffrent de maladies normales n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. D'autres refusent simplement de se rendre à l'hôpital par crainte d'être infectés. De nombreuses familles se tournent vers l'automédication. Reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Selon les autorités sanitaires du Nigeria, il y a eu une baisse significative du nombre de patients non atteints du Covid-19 dans les hôpitaux du pays. De 4 millions par semaine, ils sont aujourd'hui 2 millions. Ce qui est plus préoccupant, c'est que même les femmes enceintes ne se rendent plus dans les hôpitaux. Leur fréquentation a chuté de moitié pour passer d'1,3 million à environ 600 000 aujourd'hui. La vaccination des enfants a également chuté de moitié et beaucoup d'entre eux sont menacés. À l'hôpital Saint-Vincent des Sœurs de la Charité et dans d'autres hôpitaux, les chaises pour accueillir les malades sont vides. Docteur Eder Raphaël, chef de service à l'hôpital Saint-Vincent. Pour beaucoup de gens, particulièrement ceux qui ont des complications chroniques comme l'hypertension, le diabète, le cancer et autres, c'est la peur. Et puisqu'ils sont au courant de leur situation, dans les circonstances actuelles concernant les complications avec le COVID-19, ils ne viennent pas à l'hôpital. Le nombre d'infections augmente dans le pays, la peur aussi gagne du terrain. Des milliers de personnes se tournent vers l'automédication, ce qui affecte par conséquent le système de santé et la lutte contre le COVID-19. Dr Onodja Ojibo est propriétaire de la clinique privée Alpha. La conséquence de l'automédication chez les gens est que tu deviens victime de plus de complications par rapport à la pandémie et même leur cas habituel qu'ils gèrent depuis. Et tout cela de peur d'aller à l'hôpital pour se faire tester. Ouzoma, mère de deux enfants, préfère acheter des médicaments pour se faire soigner à la maison.
Je préfère me soigner à la maison par rapport à aller à l'hôpital parce que on a tous peur d'aller à l'hôpital. Premièrement, on n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Deux, on a la peur d'aller à l'hôpital parce que là, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, c'est mieux de rester à la maison. De toute façon, on sait que se soigner, ce n'est pas bien. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire?
Le Nigeria fait face à une urgence sanitaire car des millions de personnes n'ont pas accès à des soins de santé adéquats. Beaucoup de Nigériens n'ont pas confiance aux hôpitaux publics sous-équipés. Les soins de santé privés ne sont pas non plus à la portée de tout le monde. Le premier exportateur du pétrole du continent a un taux de pauvreté très élevé. Le président Muhammadu Buhari lui-même a passé plusieurs mois en Grande-Bretagne pour se faire soigner. Ainsi, le gouvernement nigérian est constamment critiqué par les citoyens pour son inaction à améliorer le système de santé. Gilbert Tamba, Abuja, VOA.
L'Afrique du Sud est la deuxième économie du continent, un aimant pour des millions de migrants. Le pays compte plus de 4 millions d'étrangers vivant de l'économie informelle qui s'est asséchée à cause du confinement. Ces migrants, illégaux pour la plupart, ne peuvent pas accéder non plus aux aides du gouvernement et survivent grâce au soutien d'ONG et d'organisations religieuses. Yakuba Ouedraogo.
Elle est une immigrée éthiopienne et a souhaité ne pas révéler son identité par souci de sécurité. À 47 ans, cette mère célibataire qui a fui la répression dans son pays vit à Johannesburg avec ses trois enfants sans permis de séjour depuis 2008. Vivotant avant le nouveau coronavirus grâce à de petits boulots, elle s'est retrouvée sans travail depuis que le gouvernement a décrété le confinement. Pas de boulot, pas de papier, elle ne peut pas accéder aux aides sociales. Son salut, elle le doit au mois de Ramadan.
Heureusement, nous sommes entrés en confinement en plein Ramadan. Les membres de la communauté musulmane ont une culture d'assistance. Parfois, les gens reçoivent des informations selon lesquelles je ne travaille pas, que j'ai des enfants et je suis une mère célibataire et ils m'apportent de la nourriture.
Affamés, la plupart des immigrés sans boulot et sans papier survivent grâce à des aides des organisations comme celle d'Amir Sheikh. Il dirige le forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud. Financé par des organisations religieuses, son réseau fournit 3500 kits de vivres et 750 repas par semaine, pas seulement à des étrangers, mais aussi à des citoyens sud-africains, à son avis, plus sociables que leurs dirigeants. Amir
Sheikh.
Le gouvernement de l'Afrique du Sud est beaucoup plus xénophobe que la communauté locale. Nous sommes acceptés par les communautés locales, nous coexistons avec elles et même aujourd'hui, vous avez vu que nous leur avons donné des kits alimentaires, alors nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Mais ce sont les représentants du gouvernement, en particulier les hauts fonctionnaires, qui créent en fait cette tension au sein des communautés. Pourtant, dans le cadre d'un plan d'urgence, le président Cyril Ramaphosa a annoncé des distributions de vivres et une allocation mensuelle de $20 pour les plus démunis. Ni Ramaphosa ni ses ministres n'ont mentionné de conditions pour la nationalité des bénéficiaires de l'aide. Mais dans les faits, les migrants et les ONG constatent que ce soutien va de facto aux citoyens sud-africains. Jessica Lawrence, avocate des droits humains.
Nous avons un grand nombre de citoyens sud-africains qui ne peuvent pas non plus accéder aux aides. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est une réponse du gouvernement qui ne fasse pas de distinction ou de discrimination à l'égard des gens sur la base de la documentation.
Pour sa défense, le gouvernement de ce pays, considéré par la Banque mondiale comme le plus inégalitaire au monde, affirme n'avoir exigé aucune preuve d'identité des bénéficiaires, mais de nombreux immigrants illégaux préfèrent garder leur distance par rapport à cette aide, redoutant qu'ils ne soient arrêtés par la police et renvoyés dans leur pays d'origine.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Cameroun, de nombreux journaux et débats radio et télévisés ont fait leur une sur la sortie de l'artiste Charlotte Dipanda. Dans notre magazine télévisé « Vous et nous » avec Ekia Badou, pour la première fois, Charlotte Dipanda affirme qu'elle souhaite voir son pays avancer avec une nouvelle gouvernance.
Alors, j'ai le sentiment que quand je dis certaines choses en Douala ou en Bakaka, c'est plus pertinent, je ne sais pas. Bien que peu de gens comprennent, mais ça me paraît plus vrai, plus puissant, plus fort quand je le dis en ma langue.
Alors, vous êtes maintenant signé dans une grande maison de disques, Universal Afrique. Quels sont selon vous les avantages et les inconvénients d'être dans une telle maison de disques ?
Alors pour une chanteuse comme moi, ça fait 10 ans que je chante et ma première signature en label arrive au bout de 10 ans. Donc il y a déjà un cheminement, un parcours. Donc une collaboration avec Universal Music Afrique, c'est vraiment de me dire effectivement, eux ils ont les instruments pour davantage développer la carrière d'une artiste comme moi. L'inconvénient, c'est peut-être de se dire bon, écoutez. Je suis déjà structurée d'une certaine manière, donc venez pas. En tout cas, ils ne vont pas avoir la même posture qu'avec un artiste qui commence, qui est en début de carrière. Donc, je pense que c'est vraiment du donnant-donnant, mais surtout être à l'écoute tant que l'objectif est vraiment de développer la carrière. Parce que si Universal parvient à développer ma carrière, eh ben, la structure se porte bien, l'artiste aussi se porte mieux. Donc, on est vraiment dans une relation de confiance, mais de beaucoup d'écoute en tout cas.
Est-ce que vous avez l'impression, Charlotte Dipanda, que votre notoriété a changé votre rapport à l'autre ? Ou alors est-ce que ça a changé le rapport que les autres ou le regard que les autres ont vis-à-vis de vous ?
Non. Enfin, c'est vraiment quand je rencontre des gens que je me rends compte que, bah oui, il se passe quelque chose dans ma vie. Mais je ne pense pas avoir changé. Le regard des gens a changé sur moi parce que, bah, ils m'ont vu faire mes classes. Et puis effectivement, quand on est dans la télé, des gens, ils nous voient dans la rue, ils se disent, tiens, elle est sortie de la télé, qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais j'essaye de garder vraiment les pieds sur terre pour rester consciente de ma mission, parce que on est les 10 heures de la société, mais on n'a pas véritablement de... je vais pas me dire que je suis extraordinaire parce que je suis une chanteuse. Non, j'espère que ma manière de dire la société interpelle les citoyens camerounais, d'Afrique, du monde, et que en tant qu'humain, en tout cas, on a les mêmes quêtes. J'essaie juste de les traduire à ma manière.
L'artiste camerounaise Charlotte Dipanda qui s'exprimait pour la première fois sur la gouvernance dans son pays. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Edressa Sedoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.